suis très heureux de vous retrouver de nouveau en physique. Alors, ce n'est pas la première fois, mais je vois que mon plaisir est renouvelé au fil des dimanches qui se succèdent ici à la salle du coloriage. Nous poursuivons notre série sur les moyens de grâce. Alors, j'imagine que vous savez maintenant ce que c'est qu'un moyen de grâce, ces actions qui, lorsque nous les faisons dans l'obéissance et la foi, ces actions au travers de laquelle Dieu nous communique une grâce particulière. Et nous avons, sur les derniers dimanches, parlé de la lecture de la parole et de la prière. Et ce matin, nous allons parler de ce que nous faisons plus depuis plusieurs mois pour des raisons sanitaires. Nous allons parler de la Sainte Cène. Il y a quelques années en arrière, alors que les enfants étaient encore relativement petits, nous avions parfois besoin, Annick et moi, d'une petite bouffée d'oxygène, c'est-à-dire pouvoir prendre quelques heures sans les enfants et se retrouver autour d'une table dans un petit restaurant. Et je me souviens d'une fois où c'était un mardi, une année c'était un mardi, je cherchais à réserver un restaurant et je faisais le constat que tous les restaurants étaient il n'y avait plus de place, tous les restaurants étaient réservés, jusqu'au moment où j'ai compris que c'était la Saint-Valentin et que je cherchais désespérément une table le soir de la Saint-Valentin. Alors, nous sommes aujourd'hui la Saint-Valentin, et tout ça pour dire que, en temps normal, il est très difficile de trouver le jour même une table dans un restaurant pour la Saint-Valentin. Pourquoi ? Parce que toutes les tables sont réservées par les couples. Et pourquoi ? Parce que c'est une manière de célébrer quoi ? Une manière de célébrer l'amour. Alors c'est très romantique, mais c'est aussi une manière de célébrer le mariage. Et pourquoi au travers d'un repas ? Ben simplement parce que l'on est mis l'un en face de l'autre. Et c'est l'occasion de raconter, d'échanger, de partager des choses profondes du mariage, de la vie de couple. Et de se réjouir ensemble. Dans la vie même politique, lorsqu'un chef d'État arrive en France pour honorer la présence d'une sommité mondiale et montrer l'amitié entre les deux pays, le représentant de ce pays qui est invité en France, quelle est une des manières de le montrer ? Le repas. Le repas qui va être symbole de l'alliance, symbole de la paix, symbole de la fête et symbole de la célébration. Et le meilleur de ce que la France offre dans sa gastronomie, dans ses vins et dans son art culinaire va être mis au service de ce repas. Là, dans ce cas-là, lorsque les caves de l'Élysée grouillent de tous les cuisiniers qui préparent le repas, les meilleurs aliments sont symboles de richesse, de raffinement, offrir le meilleur de ce que l'on a à l'autre. Nous trouvons cette même réalité dans l'Écriture et dans l'Ancien Testament. Le repas est symbole d'alliance, de célébration entre deux tribus, telles que le mariage. Il le célèbre ou rappelle les bienfaits. Le repas pris dans ces conditions, c'est pour dire les bienfaits de l'alliance dans laquelle on est. Et c'est un repas de communion dans le sens où il met les deux parties les unes en face de l'autre. Et pendant ce repas, on dit le bonheur d'être en relation, au travers de l'alliance, sans ombre, sans conflit, pour célébrer la paix. Dans l'Ancien Testament, après la chute, donc après Genèse 3, après que le péché soit entré dans ce monde, nous trouvons deux facettes de cette réalité. Par exemple, en Exode 24, après que Dieu ait donné les 10 commandements à Moïse, il nous est dit que Aaron, Nadab, Abihu et 70 responsables d'Israël gravirent la montagne, ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Repas d'alliance entre Dieu, les deux parties, entre Dieu et le peuple d'Israël. De la même manière, dans les commandements, dans le livre des commandements, dans le livre du Deutéronome au chapitre 14, verset 23, où il est question des prémices de la récolte, c'est-à-dire les premières récoltes où le premier-né des élevages était offert à l'Éternel. Ils étaient consommés devant l'Éternel et le texte invite à le faire en se réjouissant. Signe de dépendance à Dieu, mais aussi qui rappelait l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Et donc ces repas traduisent la communion entre Dieu et les hommes, quand bien même le péché est venu briser cette communion et mettre de la distance entre eux. Alors c'est vrai que le péché a brouillé la communication entre Dieu et les hommes. Et cette communion qui était parfaitement fluide dans le jardin d'Éden n'est plus possible après que le péché soit entré dans ce monde. Et donc il faut faire autre chose. Un autre signe symbolique qui sont les sacrifices qui rappellent qu'on ne peut plus s'approcher de Dieu à cause de notre péché et que quelqu'un doit mourir, un innocent doit mourir pour que la justice, symbole de la justice de Dieu qui passe, pour pouvoir être à nouveau en communion. Et nous trouvons dans l'Écriture les prémices de ce nouveau repas à venir qu'est la Sainte Cène. Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26, quelques versets. Nous sommes à la veille de la crucifixion, dans le temps de la Pâque. Jésus est avec ses disciples. Et au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il leur donna en disant « Buvez-en, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Au travers de ce repas, qui est l'institution de la Sainte Cène, nous percevons le sens de ce repas, nous commémorons l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, au bénéfice duquel nous sommes. J'aimerais vous proposer 7 points, qui sont relativement brefs, sur ce que nous faisons lorsque nous prenons le repas du Seigneur ensemble. Premier point. Lorsque nous prenons ce repas, nous célébrons la mort de Dieu. Selon les paroles de Jésus lui-même, le pain signifie le corps de Christ rompu pour nous, et le vin, c'est-à-dire le jus de raisin, c'est le sang, c'est-à-dire la vie qu'il a donnée. Et pain et vin sont deux aliments qui sont le mieux porteurs du symbole de sa mort. Et ils ne sont pas choisis au hasard. En fait, les deux, le pain comme le vin, sont des aliments courants de la vie de l'époque de Jésus et facilement accessibles. Ils font même partie du repas quotidien. Le vin représente le sang. C'est un liquide, comme le sang, qui a une couleur, celle du sang. Et le pain symbolise le corps. Alors pourquoi est-ce que le pain symbolise le corps? Eh bien, dans le sens où le pain se rompt. Il faut le briser pour le partager. Je dirais même qu'il faut le maltraiter pour que nous puissions le prendre, c'est-à-dire le couper, le rompre, le déchirer. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles dans certaines églises, lorsque c'est une miche de pain qui circule dans l'assemblée et que chacun est amené à rompre, à en prendre un morceau, on abîme la belle forme de ce pain sorti du four pour le consommer. Et dans ce sens, le pain représente Christ qui a été rompu, brisé pour nous. Disons aussi que le fait que ce soit des aliments a également une portée symbolique. Pour vivre, nous avons besoin de manger. Pour vivre, nous avons besoin de nourriture solide et liquide. Et le fait que nous mangions, que nous consommions des aliments, dit quelque chose de ce qui est nécessaire pour vivre. Quand nous prenons le pain et le vin, nous disons quelque chose de symbolique du l'ordre de cela, le message porteur, le symbole présent est nécessaire à ma vie. Alors, quand nous célébrons la mort de Christ, nous utilisons ces deux aliments qui le représentent. C'était le premier point. Lorsque nous prenons le repas, nous célébrons la mort du Christ. Deuxième point, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous participons aux bienfaits qui découlent de la mort de Christ. Nous participons aux bienfaits qui découlent de la mort du Christ. Jésus a dit à ses disciples, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Je fais ici une petite remarque. Il est intéressant de relever que Jésus ne s'est pas mutilé quand il a dit « Prenez ceci, c'est mon corps. » Il ne s'est pas arraché un bout de peau pour la donner aux disciples. Et en même temps, il ne s'est pas saigné une veine pour nous faire boire son sang. C'est Jésus lui-même qui induit la portée symbolique de ce repas. C'est Jésus lui-même qui dit, qui associe le pain à son corps et qui associe le vin à son sang. C'est Jésus lui-même qui nous dit que pain et vin sont symboles de sa mort. Alors pourquoi est-ce que je fais cette remarque ? Dans l'Eucharistie catholique, qui est pratiquée pendant la messe, le pain et le vin deviennent réellement corps et sang de Christ. Et cela se passe au moment où le prêtre lève l'hostie et où il prie, donc c'est le sacrement, il se passe à ce moment-là quelque chose de précis, c'est-à-dire que le pain et le vin deviennent ce qu'il signifie. Et donc Jésus est physiquement présent dans l'Église au moment où pain et vin sont transformés en son corps. Mais cela pose au moins deux problèmes. Si Jésus demeure aujourd'hui dans son corps physique, ressuscité et glorifié au ciel, il ne peut pas être en même temps présent dans son corps morcelé, dans le cadre de l'Eucharistie. Et comme c'est Jésus qui a lui-même symbolisé le pain et le vin comme son corps et son sang, pourquoi changer ce que Jésus a lui-même instauré ? Il y a donc une différence fondamentale entre l'Eucharistie catholique et la Sainte Cène que nous pratiquons. Je poursuis. Lorsque je prends le pain et lorsque je prends le vin, mon geste montre que je m'approprie les bienfaits qui découlent de la mort de Christ. Je ne fais pas que regarder ces symboles. Je les prends. Et en les prenant, je m'approprie la signification. Lorsque je mange le pain et que je prends le vin, je dis « cela est vrai pour moi ». Mon geste qui prend et qui consomme dit « Christ a fait cela pour moi ». Je le crois, c'est vrai pour moi. C'est donc un témoignage. Quand nous prenons le pain et le vin, nous disons, par la force du geste, par le symbole que nous approprions, que tout ce qu'il signifie, toutes ces choses sont vraies pour moi. Il y aurait une différence entre regarder le pain et le vin et prendre pour manger. Je peux regarder le pain et le vin, juste le regarder, et ce faisant, dire « je comprends ce que ça signifie ». Je peux regarder le pain et le vin pour ensuite le consommer, c'est-à-dire que je dis deux choses. Un, je comprends ce que ça signifie, et je dis en même temps que c'est vrai pour moi. Donc, quand je participe au repas du Seigneur, je m'approprie les bienfaits qui découlent de la mort de Christ. Troisièmement, lorsque nous prenons le pain et le vin, nous disons que c'est une nourriture spirituelle pour nous. Christ est notre nourriture spirituelle. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, manger et boire sont deux choses essentielles au fonctionnement de notre corps. Si vous vous abstenez de boire, vous allez mourir. Si vous vous abstenez de manger, vous mourrez aussi, mais ce sera probablement un peu plus long. pour vivre, il nous faut les deux. Manger et boire. Nourrir est un geste que nous pratiquons plusieurs fois par jour. La vie est possible parce que nous répétons sans cesse ce geste. Et une bonne partie de l'organisation de la société, l'agriculture, les magasins, la sécurité alimentaire, c'est toute une activité qui est au service de cette chose vitale, avoir accès à la nourriture essentielle pour vivre. Et dans ce sens, le fait de manger le repas du Seigneur et de le répéter au fil du temps, dans notre tradition d'église, ici à Crène, nous le faisons hors Covid tous les dimanches, le fait de répéter le geste dit que nous avons besoin d'être vivifiés et revivifiés par cette vie nouvelle qui nous est donnée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le repas du Seigneur nous rappelle aussi cette réalité. Nous avons besoin de nourriture spirituelle. Nous ne pouvons pas vivre de pain seulement qui nourrit notre être biologique. Nous avons aussi besoin des paroles du Seigneur. Nous avons besoin de cette nourriture spirituelle vitale pour notre vie de disciple. Cette vie nouvelle qui nous est donnée par quoi ? Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le fait de manger, d'activer la mâchoire, de boire est le symbole de ce besoin de nourriture spirituelle. La Sainte Cène dit le besoin continuellement renouvelé de la vie de Christ en nous pour marcher, persévérer et aller jusqu'au bout. Quatrième point. Lorsque nous prenons le pain et le vin ensemble, nous disons l'unité des croyants. Et ici, il y a la dimension communautaire, le fait de le pratiquer ensemble, qui va avoir un sens profond. Quand je mange le pain et le vin, mon geste qui prend et qui consomme dit « Christ a fait cela pour moi, je le crois, je suis au bénéfice de l'œuvre de la croix ». Et quand nous faisons cela ensemble, quand nous prenons la Sainte Cène ensemble, et c'est toujours dans la communauté de l'Église que ce repas est pris, nous disons ce que Christ a fait pour moi, et je dis qu'il l'a aussi fait pour mon frère ou ma sœur qui prend ce repas avec moi. La dimension communautaire témoigne que j'appartiens à la communauté des rachetés et des graciés. Je ne prends pas la Sainte Cène chez moi seul, dans l'isolement. Je le prends avec mes frères et sœurs parce qu'en fait, je ne suis pas le seul à être au bénéfice de l'œuvre de la croix, mais j'appartiens à un peuple nombreux sur la surface de la terre. Et donc ici, il y a une dimension communautaire qui est très forte. Mon voisin, comme moi, est gracié. Et je dis par là qu'il n'y a aucun autre moyen d'être gracié que par la mort de Christ à la croix. Et cela me rappelle aussi que ce ne sont pas mes œuvres qui me sauvent. Imaginez que ce soit le cas. Nous serions dans une constante concurrence entre nous. Et peut-être que la question que nous nous poserions tous les dimanches matins, c'est « Qu'est-ce que tu as fait, toi, cette semaine pour obtenir la faveur de Dieu ?» Qu'est-ce que tu as fait de plus que moi ? Ou alors, regarde ce que j'ai fait de mieux que toi. Nous serions dans une concurrence perpétuelle si la foi dépendait de nos œuvres. Mais le repas du Seigneur est précisément là pour nous rappeler que nous sommes des graciés. Quelle que soit la noirceur de notre péché, Christ nous a rachetés. Quelles que soient mes origines, quelle que soit ma vie, Christ m'a racheté et ce repas me rappelle que je n'ai rien à rajouter, je ne peux rien y ajouter. Il est le symbole parfait de ce que Christ a fait. Nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Cela nous rend modestes. Et le fait de prendre le repas ensemble dit cela. Tous pécheurs, tous besoin de Dieu, tous besoin de la croix de Christ, tous besoin de sa grâce. Cela nous fait aussi prendre conscience qu'il nous faut faire grâce dans les relations, les uns avec les autres, dans ces moments où il nous arrive de nous blesser, parce que Christ efface autant mes péchés que celui de mon voisin, donc je dois lui pardonner. Le repas du Seigneur est symbole de communion entre tous ceux qui sont invités à célébrer ce que Christ a fait. Et quand nous le faisons ensemble, nous donnons ce témoignage de la communion entre Dieu et l'Église. Le repas devient Dieu qui est en face de l'Église, l'Église qui est en face de son Dieu. Et à cause de la mort de Christ que nous célébrons au travers de ce message, même de ce symbole, nous pouvons alors nous approcher, nous disons en même temps qu'il n'y a plus d'obstacle entre Dieu et nous. Nous n'avons plus à craindre Dieu, plus à craindre sa colère. Nous sommes en face de notre Rédempteur. La Sainte Cène nous place ensemble, communautairement, en face de notre Rédempteur. Elle nous place face à notre Seigneur. Cinquième point, lorsque je mange le pain et le vin, Christ affirme son amour pour moi. C'est lui qui m'invite à sa table. Prenez, mangez et buvez. L'invitation vient de Christ, preuve de son amour pour moi. Et le repas de la Cène est un temps de joie, de célébration qui dit tout le plaisir d'être ensemble pour faire la fête, pour célébrer ici notre relation avec Dieu. Nous célébrons la nouvelle alliance, la joie d'avoir été pardonné, sauvé, gracié, parce que Christ lui-même nous dit « prenez et mangez ». Le repas du Seigneur dit « l'amour de Christ pour moi. » Et nous pourrions ici juste réfléchir quelques instants à ce qui pourrait nous retenir en tant que croyants à venir prendre la Sainte Cène. Qu'est-ce qui nous empêche de s'asseoir à la table pour être en face de Christ qui m'invite? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de le faire? Vous avez peut-être identifié un obstacle. Alors dites-vous que c'est Christ qui vous invite parce qu'il vous aime. Sixième élément de la Sainte Cène, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je mange le pain et le vin, Christ affirme que toutes les bénédictions du salut me sont réservées. Lorsque je mange le pain et le vin, le Christ affirme que toutes les bénédictions du salut me sont réservées. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié, il la lui leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Prendre la Sainte Cène, c'est dire et redire le contenu de l'alliance assurée par Christ lui-même. Et quand je prends le pain et le vin, je dis et je redis, je suis aimé de Dieu, je suis pardonné, je suis purifié, je suis gracié, je suis racheté, je suis adopté, je suis sanctifié, je suis promis à la vie nouvelle et à la vie éternelle. Parce que tout cela est dans l'alliance, scellé par la mort et la résurrection de Christ. Il est bon de se dire et de se redire régulièrement le contenu de la nouvelle alliance lorsque nous prenons le repas du Seigneur. C'est pour cela que nous appelons aussi ce repas le repas du souvenir. Nous avons besoin d'entendre et de réentendre cette bonne nouvelle, nous avons besoin de se l'approprier régulièrement. Dernier point, Lorsque je mange le pain et le vin, j'affirme ma foi en Christ. Je proclame, quand je prends le pain et le vin, le geste dit que j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Que je crois, Seigneur, que tu pardonnes mes péchés. Je crois que tu vivifies mon âme, car ce n'est pas ton corps brisé et ton sang versé. Parce que ce n'est que par ton corps brisé et ton sang versé que je puis être sauvé. Et je proclame aussi, en prenant ce repas, que les souffrances et la mort du Christ sont partiellement dues à mes péchés. C'est pourquoi la tristesse et la joie, la reconnaissance et un amour profond pour Jésus sont étroitement mêlés dans le repas du Seigneur lorsque nous le prenons ensemble. Je résume les 7 choses que nous faisons quand nous prenons le pain et le vin, nous célébrons la mort de Christ. Nous participons aux bienfaits qui découlent de la mort du Christ. Nous disons que nous avons besoin de nourriture spirituelle pour vivre. Nous disons l'unité des croyants. Nous entendons Christ qui affirme son amour. Nous prenons les bénédictions du salut et nous les rappelons et j'affirme ma foi en Christ. 3 brèves questions pour terminer. Questions peut-être pratiques pour prendre la scène. Qui peut prendre la Sainte Cène? Évidemment, ceux pour qui le contenu a un sens et ceux pour qui il est possible de dire « Je crois et je vis les bienfaits de la croix ». Cela a tout ce sens dans ma vie. En fait, ce repas est réservé aux croyants, à ceux qui ont confessé et qui ont accepté Christ dans leur vie. Et se pose la question parfois, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut être baptisé avant de prendre la Sainte Cène? Il y aurait une certaine logique à cela, dans le sens où le baptême est le signe visible de la... on témoigne par un signe visible d'une réalité invisible. Le croyant qui est au fond, la personne qui au fond de son cœur a décidé de suivre Christ et de lui confier sa vie, va le manifester par un signe extérieur qui est le baptême. Et donc, une fois que ce signe extérieur du baptême est manifesté, publiquement, il est dit, il y a là l'identification. Cette personne, par sa profession de foi, dit « j'appartiens à l'Église ». Et dans ce sens-là, il y a une logique à dire que, après le baptême, il y a la célébration de la scène. Mais l'Écriture n'est pas formel sur ce point par ailleurs. C'est-à-dire que, bien qu'il y aurait une certaine logique à cela, ce n'est pas pour autant, l'Écriture ne le formalise pas comme tel, elle ne dit pas l'ordre. Parce que dans le fond, c'est bien la nouvelle naissance, la nouvelle naissance, la conversion, qui nous lie à Christ. Et donc il y a là une souplesse, d'ailleurs notre Église n'a par exemple pas statué sur ce point-là, comme d'autres églises qui le font, où c'est clairement expliqué dans le règlement intérieur, qu'il faut être baptisé pour prendre la Sainte Cène. Nous comprenons la logique, mais l'Église a laissé ce point ouvert dans notre pratique, ici localement. C'était en fait ma deuxième question, faut-il être baptisé pour prendre la scène? Et une dernière question, y a-t-il des situations où je devrais m'abstenir de prendre la scène? C'est aussi une question qui est souvent posée et que j'ai indirectement posée tout à l'heure. Quelles seraient ces situations où je devrais m'abstenir de prendre la scène? La première situation, c'est celle où, si je ne crois pas en ce que le repas symbolise ou signifie. Il est clair que ça n'a aucun sens de prendre la Sainte Cène dans ce cas-là. Mais il peut aussi y avoir dans la vie du croyant des situations de conflit, de relations abîmées entre frères et sœurs, où prendre la Sainte Cène, c'est-à-dire je prends la Sainte Cène et je dis que je suis pardonné, mais je ne pardonne pas à mon frère qui m'a offensé et qui m'a demandé pardon. Ici, prendre la Sainte Cène devient contradictoire avec mon attitude et ma posture à l'égard d'un frère ou d'une sœur avec laquelle je peux être en conflit. Et c'est la raison pour laquelle, alors souvent nous lisons ce texte et nous insistons avant de prendre la Sainte Cène, que chacun s'examine lui-même. Effectivement, dans la pensée de Paul, quand il invite à prendre le repas du Seigneur, il y a cet examen de conscience, c'est-à-dire est-ce que quand je vais prendre ce repas, est-ce que cela traduit réellement ce que je suis en train de vivre, ou est-ce qu'il y a une situation que je dois régler, est-ce que je dois accorder le pardon à quelqu'un? Est-ce que je vais être en contradiction entre ma participation au repas du Seigneur et le fait d'être en conflit avec quelqu'un? Et en même temps, cette situation que j'évoque, elle exige aussi un certain discernement, parce qu'il y a aussi des conflits qui existent entre personnes, parfois même au sein d'une communauté, où une personne, la personne qui veut prendre le repas du Seigneur, aimerait accorder le pardon à celle qui l'a blessé, mais ne peut le faire parce que la demande de pardon n'a pas été faite. Et là, pour le coup, il n'y a pas de raison de s'abstenir. Vous saisissez les différences qui peuvent exister entre les différentes situations. La Sainte Cène n'a rien de magique. C'est un repas de commémoration dont la portée est symbolique. Et donc, quand je prends le repas du Seigneur, je dois m'examiner moi-même dans le sens où je dois vérifier que le message dont la Sainte Cène est porteur, il est vrai pour moi, et est-ce que je vis en cohérence avec ce que je témoigne dans ce temps de repas et de célébration du repas du Seigneur.